Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de Grenade, de la ville de Grenade, de l'Andalousie. Est-elle magnifiée ou pas, cette région du monde, en Ibérie? Nous parlerons aussi de l'émirat Naslide, du sultanat de la dynastie Naslide, les derniers moments de la présence islamique en Europe, avant la Reconquista, pour aborder ce sujet. Son importance historique, nous n'avons pas trouvé mieux que Sophie Macario. Sophie Macario, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler, nous édifier à propos de cette ville de Grenade, cette cité-État. Vous êtes historienne, historienne de l'art, présidente du musée Guimet. Et vous avez créé, vous êtes la créatrice du 8e département du Louvre consacré aux arts de l'islam. Comment êtes-vous intéressée à l'Andalousie d'une manière générale et à la ville de Grenade particulièrement ?
Alors l'Andalousie, c'est une vieille histoire parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière au Louvre en travaillant plus spécifiquement sur l'Espagne arabe. Pour mille raisons, d'abord parce que c'est un territoire à l'histoire partagée et que cette thématique m'intéressait particulièrement, que les proximités aussi avec l'Occident chrétien, les interactions qu'elles soient guerrières ou d'ailleurs plus pacifiques et plus esthétiques m'intéressaient extrêmement puisque j'ai aussi une formation de médiéviste. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué, ça a été une sorte de leitmotiv un petit peu de mon travail sur le monde islamique et quelque chose que je n'ai jamais quitté. Donc finalement, j'ai commencé plutôt par ses débuts, à savoir bien sûr le sultanat, puis l'émirat, puis surtout le califat des Omeyyades qui m'a passionné et qui me passionne toujours. Et puis, bien sûr...
Le califat des Omeyyades d'Occident.
Voilà, d'Occident, absolument. Oui, ça me semblait presque aller de soi, mais sont-ils si différents? Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est la suite de l'histoire, bien sûr. Et puis, de fil en aiguille, je suis allée, évidemment, jusqu'au bout de la pelote, en quelque sorte historique, et je me suis intéressée tout particulièrement... À Grenade aussi, et je crois qu'on ne peut pas y échapper malgré tout quand on travaille sur l'Espagne arabe, c'est-à-dire sur Al-Andalus, aussi à cause de la dimension du mythe, bien sûr, du fameux mythe andalou.
Oui, alors c'est pour ça que j'ai dit en introduction, est-ce que cette histoire est-elle magnifiée ou pas? Est-ce qu'on l'aborde à juste raison? Il y a des choses qui sont avérées, et ce sont les historiens qui le disent, et vous-même êtes historienne. Et vous avez composé cet ouvrage « Histoire de Grenade » avec Gabriel Martinez-Gros. Et y a-t-il peut-être autre chose qui relève de la légende, mais ce qui fait le charme aussi de l'histoire ?
Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui relèvent de la légende, mais je vais faire une citation qui paraît peut-être un petit peu hors de propos dans « L'homme qui tua Liberty Valance », un western célèbre. On peut se souvenir de cette extraordinaire dernière scène où le sénateur, enfin celui qui est devenu sénateur parce qu'il est réputé avoir tué le terrible Liberty Valance, raconte en fait que toute l'histoire est fausse et que ça n'est pas lui qui a tué Liberty Valance, mais un autre. Et le journaliste qui a recueilli... d'une certaine façon, sa confession, pose son crayon, lui fait comprendre qu'il n'écrira pas l'article et lui dit « Nous sommes dans l'Ouest, ici, sénateur, et lorsque la légende dépasse la réalité, nous publions la légende. » Je dirais ça de Grenade, d'ailleurs, de l'Andalous en général. La légende est une partie intrinsèque de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué de l'histoire, parce qu'elle a fabriqué, par exemple, une masse de récits contrastés. C'était un objet historique débattu. Elle a aussi été la matière, je dirais, de rêves littéraires, de créations, de musique. Voilà, c'est un horizon enchanté. Je pense qu'on ne peut pas, en fait, tout à fait dépasser. Donc, il faut l'intégrer comme un élément historique.
une des définitions de l'histoire, j'ai eu l'occasion peut-être de le dire une ou deux fois, et je vous la soumets, c'est une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensées, mais surtout une archéologie du temps présent. On peut appliquer cela à l'Andalousie, tout particulièrement à Grenade.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Cette archéologie du temps présent, je dirais, on l'éprouve très, très particulièrement quand on marche dans la ville. Enfin, il y a une espèce de... Alors, bien sûr, quand on est en particulier dans le quartier d'El Baïsin, on a une sorte d'impression de fusion des époques dans cette ville qui est extrêmement forte. Moi, je dis ce que j'ai dit au moment, en fait, où on nous a demandé un livre pour cette collection, cette collection donc publie Fayard sur les villes. Une ville d'Espagne, et de l'Espagne arabe, bien sûr, laquelle il y avait donc à peu près trois choix qui s'ouvraient à nous, Cordoue, bien sûr, Séville et Grenade. Alors, pourquoi pas Cordoue? Moi, c'était mes premières amours, c'est aussi les premières amours de Gabriel Martinez Gros. Parce que malgré tout, l'histoire de Cordoue, c'est quand même... oui, il y a aussi du mythe dans l'histoire de Cordoue, mais c'est une histoire qui s'assoupit assez vite, en fait. Séville, c'est largement une histoire atlantique et puis après une histoire bien sûr revisitée par le romantisme. Et Grenade, il nous a semblé que c'était tout, c'est-à-dire que c'était une histoire longue et une histoire qui nous emmène jusqu'au XXe siècle. Je pense qu'elle est toujours une leçon pour aujourd'hui, donc peut-être est-elle aussi une histoire qui va jusqu'au XXIe siècle, mais je dis au XXe siècle parce qu'en particulier, évidemment, s'y attache aussi la figure de Garcia Lorca. Donc, pour moi, c'est une sorte de ville-monde.
Alors, de ce triangle Cordoue, Séville, Grenade, vous avez choisi le sommet Grenade, presque dans tous les sens du terme. L'apparition dans l'histoire des hommes de Grenade comme... On dit quoi? Oppidium. Oppidium, c'est une sorte de proto-cité chez les Romains. Et Grenade en fut une avant notre ère ou l'ère commune. Et puis, elle a quelques noms. L'appellation Grenade, ça remonte à quoi? Rarnata tal-Yahoud, comme oui. On dit. Oui. La Grenade
la
des
Grenade
Juifs.
La Grenade des Juifs, bien sûr. Il y avait une communauté juive importante qui a joué... en particulier à l'époque zirid, donc on est là dans ce qu'on appelle la période des Moulouk At-Tawaif, des royaumes de petits morceaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui résulte de l'Espagne après la disparition du califat de Cordoue, donc dans le XIe siècle. Et il va y avoir une de ces taïfas qui va se créer donc à Cordoue, effectivement dans une ville où il y a une communauté juive importante, avec évidemment des noms très importants comme Ibn Negrilla, par exemple.
Nous y reviendrons, voilà, il a joué un rôle important.
Alors, cette ville, elle occupe en fait essentiellement la partie basse. Hein. Il faut se représenter les lieux un petit peu. Grenade, c'est évidemment... c'est une vega, comme on dit en espagnol. C'est une plaine cultivée. J'insiste sur le terme parce que se glisse là-dedans, bien sûr, immédiatement l'image d'un paradis. C'est une ville qui est dans un amphithéâtre de montagne. Donc c'est en quelque sorte un territoire clos dans un paysage assez somptueux. Et puis la ville est dominée, bien sûr, par une éminence, la Sabica, sur laquelle on va aller installer la ville haute de gouvernement. Voilà. Et à l'époque zéride, en fait, on a à peu près la même chose. On a une ville base qui va succéder à une sorte de castrum romain. C'est là qu'est établie évidemment aussi la communauté juive, que se développent les activités marchandes en particulier. Et puis on a cette première ville forte sur cet éperon très beau de la Sabica, où on va en fait avoir les premiers éléments de ce qui deviendra plus tard l'Alhambra.
Oui, là vous avez évoqué la période zéride, on est au tournant du XIe siècle, mais avant l'islamisation de la ville, remonte presque au début de la conquête. On est presque même dans les, au début du 8e, on est à 711, 712.
Oui, oui, très vite. Bah, de toute façon, évidemment, Grenade se trouve, je dirais, en quelque sorte, aux avant-postes de l'Espagne qui est conquise par les Arabes. Donc, très vite, la ville va évidemment tomber dans cette escarcelle de l'émirat omeyyade qui va s'établir donc à Cordoue en 756. Mais il faut se rappeler un petit peu les épisodes de la conquête, hein. Les Omeyyades qui sont donc chassés d'Orient, renversés par les Abbassides. L'un d'entre eux va pouvoir échapper au massacre de sa famille et au prix d'une longue fuite. Il peut, grâce à des appuis berbères d'ailleurs, passer le détroit de Gibraltar, la montagne de Tariq, Jabal al-Tariq.
Qui avant c'était le détroit des colonnes d'Hercule.
Voilà, absolument. Et il va donc pouvoir prendre pied en Espagne, dans l'Hispania romaine, puis visigothique, mais qui a été conquise en 711 déjà par les Arabes, hein, donc au service en fait des Omeyyades. Et il y a donc une fidélité en quelque sorte à ceux qui ont fait la conquête de l'Espagne. Donc Grenade, qui est une relativement petite ville, mais qui est déjà quand même le siège d'un évêché, il faut le rappeler, donc c'est pas non plus tout à fait négligeable, va évidemment assez vite s'arabiser. Alors il y a toujours ce grand débat de...
Elle s'appelait Elvira.
Voilà, elle s'appelait Elvira. Elle va garder ce nom d'ailleurs, Madinat Elvira, pendant un temps, avant de devenir effectivement Gernata. Alors là, sur l'origine du nom des débats, vous savez que, évidemment, c'est l'adaptation du nom arabe en Grenade qui fait que, évidemment, après la reconquête, le symbole de la ville va devenir un fruit qui est d'ailleurs un fruit d'Orient comme d'Occident.
On verra petit à petit que comment même l'appellation, on change de Elvira à Granada, Gernata. Gernata al-Yahoud, la grenade des Juifs. Après, l'apocope fera en sorte qu'on ne dira plus des Juifs, mais c'est plutôt Grenade. La ville elle-même, sur le plan purement topographique et géographique, est traversée par le Khénil, qui est un affluent de Guadalquivir, et puis Al-Douro, qui est une rivière elle-même, un affluent du Khénil. Et c'était aussi quelque chose d'important d'avoir de l'eau en cette région du monde, en Andalousie, à la fois pour les terres, et au loin la Sierra Nevada. J'essaie simplement d'avoir ce tableau. Il va y avoir petit à petit une construction de type mauresque ou arabo, au niveau de l'architecture arabo-islamique. Et vous avez parlé de Sabika, il y aura l'Al-Kasaba, sorte de citadelle.
Alors, la topographie, elle est évidemment extrêmement importante. Je dirais que c'est un héros de l'histoire. Vous avez rappelé la présence, évidemment, du Khénil. Et du Douro, ce sont en fait donc deux cours d'eau relativement importants, c'est pas des fleuves évidemment, mais qui cernent donc les prons de la Sabika. Il faut mesurer qu'aujourd'hui dans la ville de Grenade, en fait, l'eau est moins présente parce qu'on a couvert une partie du cours de la rivière. Donc aussi pour des raisons de tout simplement de salubrité, hein. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, Grenade est considérée comme la ville la plus insalubre d'Espagne. Bon, ça c'est aussi un élément important qui explique en fait de nombreux travaux qui ont été réalisés d'urbanisme, donc réalisés dans la ville au XIXe. Donc on a cet éperon rocheux qui se détache effectivement sur un fond de crête constamment enneigée, la Sierra Nevada. Et vous avez utilisé le terme de tableau, on ne saurait mieux dire, parce que évidemment, la composition de l'ensemble, avec cette vega plantée, ces arbres fruitiers, les légumes, un air frais, enchanteur, etc., c'est un tableau, en fait. On est dans une image et dans un paysage éminemment pittoresque, qui a été une source d'inspiration considérable pour les écrivains. Qui l'ont découverte. C'est déjà vrai chez Münzer, en fait, quand il aborde Grenade juste quelques années après la reconquête. un des premiers voyageurs qui se rend à Grenade, mais ça sera vrai chez tous les auteurs romantiques qui sont frappés en fait par l'extraordinaire beauté pittoresque des lieux.
Bien. Alors, parlons de la dynastie Zirid, au tournant, ai-je dit, du XIe siècle, Zawi bin Ziri, qui est-il, que vient-il faire ici, prend possession de la ville, et là on commence à entrer, vous me l'aviez dit tout à l'heure, dans la période des rois des Taïfas. Taïfa, c'est un terme arabe qui renvoie à une notion de secte au sens premier du terme, à un morcellement. Et il était encore vassal de Cordoue ou il y a une loyauté pour Cordoue, il commence à s'émanciper.
Oui, non, au départ il y a une loyauté pour Cordoue, il y a évidemment dans cette première histoire d'une grenade sortie du califat, en quelque sorte, un califat qui n'est plus, de nombreuses références culturelles, notamment visuelles. Donc on va beaucoup essayer de prolonger, de reproduire en fait des modèles cordouans à Cordoue. Et par exemple, un petit détail, on va faire commander pour ce fameux palais auquel on va bien arriver, donc la future Alhambra, vous avez raison de parler d'Alcassaba, on va y revenir, une grande vasque de marbre sur le modèle en fait des vasques de marbre qui étaient commandées par les califes de Cordoue et puis évidemment par le fameux Al-Mansour, avec, j'irais, un ensemble de représentations plus allégoriques d'ailleurs que symboliques, qui sont tout emprunts en fait de la culture cordouane. Alors, c'est des vasques de marbre assez somptueuses. Elle a d'ailleurs été usurpée. On a un moment effacé le nom du Zirid dans l'inscription. Mais il y a des quantités d'éléments. Alors, sur cette grenade en même temps, Zirid, il faut dire que architecturalement, on ne sait plus grand-chose parce que, bien sûr, elle a été effacée par la suivante. Mais on retrouve en particulier dans les emplacements. Et puis, quand même, je tiens à le dire, vous allez dire que je rôde et je grimpe comme ça à l'assaut de la Sabika, mais en particulier dans ce qui deviendra l'Alhambra et la fameuse Cour des Lions, on sait qu'il y avait en fait déjà là une fontaine, que c'était probablement le centre du palais, et il faut le dire tout de suite, en fait, les fameux lions de la Cour des Lions, eh bien, ils sont Zirides, ils ne sont pas Nasrides. Ce sont des remplois d'une fontaine antérieure. Et cette fontaine, c'est en particulier grâce à Ibn Negrila qu'on en a quelques idées.
Les Zirides sont d'Afrique du Nord, du Maghreb central, comme on disait à ce moment-là, plutôt un féodé ou vassaux fatimide.
Oui, absolument. Alors, on est dans cette histoire très très complexe, j'irais, des deux parties du détroit de Gibraltar. Histoire qui va durer, hein, évidemment, pendant des siècles, où on a des jeux d'alliances, parfois de retournements d'alliances, en face du califat Omeyyade, qui a donc été proclamé à Cordoue en 929. On a des voisins assez dérangeants et plein de prétentions, il faut dire, et de prétentions en particulier, je dirais, à la titulature suprême. Et ce sont des chiites qu'on appelle les Fatimides, et ces chiites sont eux-mêmes au départ issus, disons, on va dire, d'une Rassabiya, donc voilà, khorassanienne, donc ils viennent.
Une
Asabiya
pour nos amis auditeurs, une sorte de cohésion sociale,
un esprit de corps,
magnatique.
Voilà. Donc ils viennent disent-ils, de l'Est, et effectivement on a un objet conservé à Madrid, un coffre d'ivoire qui porte la mention du nom de l'artiste, qui indique qu'il est Khorasani, qu'il est bien du Khorasan.
Et donc dans la transoxiane.
Voilà, la transoxiane, donc on est plus du côté du monde iranien. Ils font donc un long chemin pour venir créer une capitale qui s'appelle Mahdiya. Et à partir de là, ils vont vouloir, ils projettent de faire la conquête du monde islamique et de s'emparer, en fait, de renverser le califat abbasside. C'est largement du fait de ces nouveaux venus très très dérangeants et qui ont cette prétention à une titulature universelle que les Omeyyades, qui s'étaient tenus assez sages, hein, avaient gardé le titre d'émir, vont à ce moment-là reprendre le titre de calife. Et ça va mettre en branle, ça n'est pas juste affaire des mots, de mots, et puis on sait que les mots sont des choses sérieuses, ça va mettre en branle beaucoup de choses, et en particulier la construction, on va dire, d'une identité visuelle, de tout un arsenal de signes du pouvoir, c'est la construction de la ville de Madinat Az-Zahra, etc. Donc, dans cet environnement, on est dans une grande proximité géographique, bah, il va falloir à un moment choisir son camp, effectivement. Et les Zirides sont effectivement, on va dire, de sensibilité plus chiite, bien que les Fatimides aient pris leur bâton de pèlerin pour aller se lancer dans cette conquête de l'empire universel de l'islam. Ils vont donc créer le Caire en 969 et puis finalement, bon, ils vont s'emparer quand même d'une partie de Cham, de la Syrie, mais finalement ils ne vont pas réussir à renverser le califat abbasside. Voilà un petit peu la situation. Donc on est effectivement dans ce 11e siècle. Il faut dire, dans l'ensemble du monde islamique, le 11e siècle est une période extrêmement chahutée.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous abordons des questions historiques et civilisationnelles sous-tendues par la tradition religieuse islamique. Avec vous, Sophie Macario, qui êtes historienne de l'art. Vous êtes médiéviste, vous présidez aussi aux destinées du musée Guimet et vous êtes créatrice du 8e département du Louvre consacré aux arts de l'islam. C'est dire que vous êtes autorisée, au sens académique du terme, à venir nous parler d'une histoire de Grenade et tout particulièrement de la dynastie Nasride, à laquelle nous arriverons tout de suite. Ce qui me paraît important, c'est que sous la dynastie des Zirides, il y a l'émergence ou la présence d'un personnage extraordinaire, un fin lettré, un homme doué d'un sens politique extraordinaire. C'est le vizir Samuel ibn Agrella, un juif. Alors d'aucuns s'étonnent, en réalité, il n'y a pas à s'étonner. Comment se fait-il qu'avec le statut de la dhimmitude, on puisse accéder quasiment au pouvoir suprême, au vizirat, diriger l'exécutif et commander, parce qu'il y avait aussi le commandement militaire?
Alors, ça n'est pas en fait un cas unique, hein, il faut le dire, dans le monde islamique. Il y a eu plusieurs vizirs juifs en Espagne, il y en a eu en Iran, un personnage tout à fait éminent, Rachid Eddin, grand historien. Il y en a eu en Égypte, si je ne m'abuse. On a eu aussi des Arméniens qui sont arrivés à des postes extrêmement importants, ces mêmes postes de vizirs, notamment dans l'Égypte des Fatimides que nous évoquions. Donc, ça apparaît évidemment comme une sorte d'étrangeté quand on ne se départit pas je dirais, de la lecture qu'on peut faire à partir de l'histoire occidentale. Le monde islamique organise finalement les choses de façon très différente, puisqu'il y a une reconnaissance et une place faite à des communautés qui ne sont pas, je dirais, de la même religion que le roi, pour faire simple. Cette ligne d'obligation d'avoir, je dirais, des serviteurs de l'État, un peuple qui a une religion et c'est celle du souverain, c'est ce qui imposera, nous le savons, dans l'Europe chrétienne, l'expulsion des communautés juives, ce qui va d'ailleurs en fait amener à l'expulsion de la communauté juive du royaume de Grenade en 1492, puisque soit ils se convertissent, soit ils sont exclus, et la plupart en fait ne se convertissent pas et s'en vont. Voilà, on est donc en fait dans un système totalement différent, parce que justement ce statut de zimmi, eh bien en fait le permet, voilà. Et puis vous avez dit sans doute le mot le plus essentiel, Ibn Negrila, c'est un fin lettré, et en particulier c'est un poète. C'est dire que c'est aussi une clé d'entrée vers de hautes fonctions. On va retrouver cette présence des vizirs poètes à Grenade plus tard, sous le règne des Nasrides. Donc moi, j'aurais assez envie d'adjoindre Ibn Negrila à ses grands successeurs Nasrides. Sauf que lui est réellement un auteur, j'irais, hébraïque, voilà la différence évidemment de nos trois vizirs poètes nasrides qu'on va sans doute évoquer plus tard.
J'ai cru comprendre, mais je le dis sous votre contrôle, que au départ, on va pas parler de sa vie lui-même et de sa biographie qui est très très riche, c'est qu'il était copiste ou scribe, ou secrétaire du vizir en titre, et à la fin de sa vie, le vizir mourant, il dit au souverain, en réalité, les conseils que j'ai pu te prodiguer, et puis même ce que j'ai pu écrire, ont été faits par Samuel ibn Negrila. Donc il lui avait conseillé de laisser la suite aux Juifs Samuel ibn Negrila, qui prendra le titre de Nagid dans la communauté juive comme prince. Il servira les successeurs de Zawi ibn Ziri, Habous ibn Badis et le suivant, et son propre fils. Ça, on aura une dynastie de vizirs. Joseph ibn Negrila sera lui aussi vizir. Donc l'idée de la conviviencia ou de cette ouverture sur d'autres traditions religieuses au sein de ce royaume, on n'est pas encore inféodé aux Almoravides. Comment cela, à ce stade-là, je veux dire, le fait d'avoir confié les affaires de la cité au vizir Aux, en tout cas juif. Alors d'aucuns disent parce que le prince ou le roi ne s'intéressait pas aux affaires de la cité, s'intéressait plutôt aux délices de la cour et aux plaisirs de la vie royale, même si c'est un petit royaume. En tout cas, me semble-t-il que cette idée-là d'avoir presque un pouvoir diarchique ou bicéphale, on a le roi et on a le vizir, avec les deux confessions, ça caractérise à tout le moins la ville-État ou la cité, la cité-royaume qu'est Grenade.
Oui, et qu'est Grenade à l'époque Zirine, en fait, parce que effectivement c'est une lignée de vizirs prégnante. D'abord parce que c'est une lignée. À l'inverse de ce qui va se passer dans la succession des vizirs que j'évoquais à l'époque nasride, donc où d'abord ils n'ont pas de lien de famille, ils ont des liens, je dirais, de maître à élève pour certains. Ça va se terminer très dramatiquement pour deux d'entre eux, avec d'histoires terribles, de trahison, etc. Là, on a une histoire, pour le dire en termes simples, je dirais plus pacifique, dans la Grenade syrienne. Je crois qu'il y avait aussi simplement dans cette petite cité-État le constat de l'efficacité du système. Et puis, encore une fois, il l'avait bien fait. Il est donc recommandé. On peut imaginer que c'est une sorte de un peu de trope littéraire, hein, malgré tout. Hein. Il est recommandé par son maître. Il joue un rôle aussi, d'ailleurs, dans la constitution de l'esthétique du pouvoir. On a beaucoup dit, on a beaucoup recherché, vous savez qu'il y a pas mal de travaux là-dessus, sur la symbolique salomonique de l'Alhambra, puisque j'évoquais la présence des lions de la cour des lions. On sait qu'il y avait là une étoile, on a beaucoup cherché dans les plans primitifs de l'Alhambra, voilà... un dessin salomonique, la présence du sceau de Salomon, etc. Ce qui est très intéressant dans ces choses qui peuvent paraître peut-être anecdotiques, c'est dire qu'en fait, il n'y a peut-être pas tant que ça une totale diarchie. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment qu'Ibn Negrilla est aussi l'exécuteur, en quelque sorte, réellement des dessins de son souverain.
Oui. Alors, on passe, puisque le temps s'écoule, au fait peut-être que les souverains de Grenade vont passer sous la tutelle, en tout cas l'ombre tutélaire, d'abord des Almoravides, et puis par la suite des Almohades. Là, la ville continue au gré des événements extérieurs, des flux et reflux, des batailles, soit entre musulmans, soit, et au gré des alliances, contre les chrétiens du Nord.
Oui, absolument. Jusqu'au moment où, tirant son épingle du jeu, le fondateur de la dynastie Nasride va, en 1237, arriver, en fait, à reprendre une forme d'indépendance, voilà, dans une cité-État. On est très loin, évidemment, avec... les deux dynasties berbères, surtout la dernière de l'idée de cette conviviencia qu'on avait connue avec les Irines, hein, qui paraît une sorte de temps assez enchanté quand même, il faut bien le dire. Et on a une période plus dure dans l'ensemble de l'Espagne. Voilà. Alors le royaume de Grenade va finalement, tel qu'il est établi effectivement... par les Nasrides, va effectivement d'une certaine façon renouer avec ce temps, je dirais, d'équilibre entre les différentes confessions, d'autant plus qu'assez rapidement va apparaître le fait que pour qu'il puisse survivre économiquement, il a besoin des royaumes du Nord. Et il va beaucoup commercer, ce sultanat Nasride, avec les royaumes du Nord. Il a en particulier une chose particulièrement importante, c'est la soie. Dans tout le royaume de Grenade, et en particulier à Almeria, on tisse la soie, on fait des tissus de soie précieux, souvent à l'imitation des tissus d'Orient, mais on fait en fait aussi des tissus dans le goût, je dirais, mauresque des royaumes du Nord. Il va y avoir des liens étroits entre la cour de Séville, en particulier sous le règne de Pierre Ier et Grenade, puisque à un moment, Mohammed V, un des souverains de la dynastie, ayant perdu son pouvoir, va se réfugier à Séville. Donc voilà, il faut se garder évidemment d'une vision historique trop tranchée où on aurait eu des oppositions constamment virulentes entre une Espagne en grande partie reconquise par les chrétiens et puis le royaume de Grenade. Si le royaume de Grenade a survécu si longtemps...
Deux siècles quasiment, voilà, un peu plus.
C'est quand même finalement à la fois qu'il ne gênait pas non plus tant que ça, il faut bien dire, et puis qu'il était un pourvoyeur, encore une fois, de denrées de luxe. Il faut aussi dire qu'on y frappait l'or, comme vous savez, ça n'arrive guère dans l'Occident chrétien, il faut arriver... On a recommencé en fait à frapper l'or, j'exagère un petit peu, au XIVe siècle, mais ça reste très rare. Donc c'est une économie très monétarisée, c'est une économie qui produit ces objets enviables que sont donc les soieries, les céramiques lustrées, enfin voilà. Le royaume de Grenade, il a aussi son utilité.
Culture. Question d'islam. Khaled Bencher.
Alors la dynastie Nasride, cette dynastie éponyme, c'est parce qu'on a affaire à Ibn Nasr, Al-Ghalib bi Amrillah. Je dis Al-Ghalib parce qu'il a une partie de mon prénom.
Oui, Khaled. Absolument.
Et c'est le victorieux sur ordre divin ou sur ordre de Dieu. Il s'appelle aussi, il au pluriel, mais lui le premier dynaste, Ibn al-Ahmar. Oui. Ce serait une explication pourquoi on appelait l'Alhambra, la rouge.
Absolument, Al-Hamra, la rouge. Oui, alors on dit que c'est aussi tout simplement à cause de la couleur des murs de l'Alhambra. C'est vrai que, en particulier au moment du soleil couchant, les murs sont très rougeoyants.
Hein, c'est écarlate.
C'est un calcaire très beau, très, très pénétré comme ça d'ocre, il doit y avoir une espèce d'oxyde de fer dans le calcaire. Mais oui, il est quand même plus probable que ce soit le nom de la dynastie qui ait donné son nom à la entre guillemets forteresse, donc à la fois Al-Qassama, comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc quartier militaire, on va dire, et puis lieu de résidence, ville de gouvernement.
Oui, la nuance entre une Al-Qassaba, la Casbah pour franciser, et la Médina, c'est que la Casbah est une forme de citadelle. Il y a un lieu à la fois de gouvernement et puis une présence militaire, davantage qu'une Médina, une cité presque ordinaire. Alors, il va y avoir des alliances, des tractations, des transactions commerciales, mais aussi peut-être aussi des liens de vassalité ou de, il aura presque comme suzerain le roi de Castille.
Oui, absolument, parce que encore une fois, ce royaume qui a des atouts topographiques, hein, il faut quand même réussir à rentrer dans ce cercle montagneux et à s'emparer de cette citadelle perchée sur un éperon rocheux. Mais enfin, c'est une sorte de confetti militaire. Il ne faut pas se leurrer, encore une fois, s'il n'y avait pas eu à la fois d'autres aventures à mener et des souverains espagnols, pour dire les choses simplement, avaient fort à faire pour composer l'unité d'un royaume. Hein. Il faut se souvenir que ces rois catholiques qui vont finir par prendre Grenade. Il y a une longue marche dans l'Espagne, en fait, pour faire de cette Hispania qui s'est déprise, qui s'est défaite en plusieurs morceaux au gré des siècles, parce que l'arrivée de l'islam a aussi contribué au morcellement de ce territoire. Il y a un très long processus, en fait, d'acclimatation des uns aux autres pour arriver à reconstituer une forme d'unité, voilà, qui va devenir l'unité de Castille et León et l'Espagne très chrétienne. Et pendant très longtemps, les Nasrides vont verser en fait un tribut qui est fort utile dans les caisses de la couronne. Et on a d'autres choses à faire. C'est vraiment finalement quand le royaume de Grenade aura épuisé en quelque sorte toute son utilité qu'il tombera.
Oui, et puis peut-être, je le dirais sous votre autorité, il y a eu des intrigues de cour qui ont précipité aussi cette chute. Mais avant, si vous voulez bien nous dire comment on a mis à profit tout ce temps-là pour non seulement édifier ce grand palais, mais aussi pour imprimer un mode de vie à la fois de luxe, de raffinement, d'art de vivre, d'hédonisme, de plaisir. Est-ce exagéré ou c'est comme ça qu'on vivait à Grenade ?
Non, ça n'est pas exagéré du tout. Alors, il faut s'imaginer donc ce palais de Grenade, cet Alhambra, qui a donc à la pointe de l'éperon un quartier militaire, qui existait déjà à l'époque Zéride, qui est réaménagé à l'époque Nasride, que domine une tour qui est une sorte d'observatoire extraordinaire sur tout le royaume de Grenade. Il faut mesurer que de là, en fait, on voit venir, en fait, par temps clair, tous les assaillants. Donc, c'est vraiment un point stratégique, l'Alcazar. Et puis donc, un palais Zéride, dont il ne reste pas grand-chose de discernable, mais qui a laissé du moins ses lions, qui portaient déjà une vasque de fontaine, et probablement à peu près au même endroit que se trouve la cour des lions actuellement. Alors, on va éloigner certaines idées toutes faites. On a beaucoup dit, on l'a répété pendant le 18e, puis le 19e siècle, que la construction du palais de Charles Quint, puisque Charles Quint y a pris ses quartiers, qu'il a infiniment aimé ce lieu, dont il a voulu faire sa capitale, et que tout ça est interrompu par la mort de son épouse, Isabelle de Portugal, à laquelle il était très, très attaché et qui aimait infiniment Grenade. Non, il n'y a pas eu un double du palais qui aurait été détruit par les rois chrétiens dans une sorte aussi de volonté qu'ont eu ceux qui ont imaginé cela, de restituer un plan entre guillemets parfaitement symétrique à l'Alhambra. En fait, l'Alhambra, c'est une adjonction de projets palatiaux qui vont s'abouter les uns aux autres et qui donnent cette espèce de dédale absolument enchanteur, parfois un peu difficile à comprendre, mais est-ce qu'il s'agit à chaque fois de comprendre, je n'en suis pas sûre, pour le visiteur qui l'aborde pour la première fois. On a donc en fait un espace enclos assez grand, évidemment tout la partie haute de la Sabica est fortifiée, il faut bien défendre ce lieu, donc une véritable architecture militaire, mais c'est une sorte d'étonnante contradiction puisque cette architecture militaire voit parfois certaines de ses tours s'ouvrir en belvédère, voilà, pour profiter du paysage. Alors, dans les très grands constructeurs, on va mentionner au XIIIe siècle Youssouf Ier, et puis vraiment un des plus grands, c'est Mohammed V, que j'ai déjà mentionné, qui va avoir deux règnes, puisqu'à un moment, il est détrôné, il prend le chemin de l'exil à Séville. C'est intéressant d'ailleurs de faire par la pensée le va-et-vient entre l'Alcazar de Séville et l'Alhambra de Grenade. Il y a évidemment beaucoup de liens. Et il y a en fait un bon nombre de traces dans les décors de l'Alhambra faits sous le règne de Mohammed V. Un bon nombre de traces, je dirais, d'exotisme occidentaux, pour tout le dire, c'est-à-dire des motifs en particulier qui vont être empruntés un environnement, voilà, d'Europe courtoise, d'iconographie chrétienne, que l'on va retrouver jusque dans la salle des rois. Donc ça, c'est aussi amusant parce qu'on pense toujours aux influences de l'autre côté, mais en fait, Mohammed V va lui-même ramener des influences, on va dire, occidentale, enfin le terme est un peu malheureux, en tout cas, voilà, issu de la cour de Pierre Ier dans le décor de l'Alhambra. Alors, on entre, c'est un palais dans lequel il y a évidemment tout. Donc il y a une chancellerie, bien sûr. C'est en fait la zone avant de l'Alhambra, celle qu'on visite assez peu maintenant parce qu'elle est assez ruinée. Mais c'est là qu'il faut imaginer, dans une cour qui n'a plus tout à fait l'air d'être une cour parce qu'il n'y a plus de bâtiments intégralement conservés, c'est là qu'il faut imaginer nos grands souverains Nasrides en train de composer. De composer, on reviendra sur ce qu'ils composent, parce que je pense qu'ils n'ont pas composé, outre les actes de chancellerie, seulement de la poésie. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup participé, et on revient à Ibn Negrilla, à la conception du palais. Je pense que c'est vrai en particulier pour un des vizirs qui s'appelle Ibn al-Jaya, mais que c'est sans doute vrai pour d'autres, puisque c'est là l'occasion de mentionner que ces trois grands poètes, Ibn Zabrak, Ibn al-Jayyab et Ibn al-Khatib, je les ai mis dans le désordre, mais bon, ont tous composé de la poésie architecturale. L'Alhambra a cette grande particularité d'être un lieu qui conserve beaucoup d'inscriptions monumentales poétiques et des poèmes qui ont été, des qasidas souvent, qui ont été composés pour le palais, qui sont des commentaires du palais. Et on peut penser à la lecture de certains, je pense en particulier au poème de la tour de la captive, donc une de ces tours qui regarde vers la ville et qui en même temps voilà, est ouverte, est aussi un lieu de plaisance, donc elle a une fonction défensive et palatiale, hein. on venait s'y retirer. Les poèmes qui cernent la tour sont tout à fait frappants parce que, en fait, ils sont un commentaire extrêmement savant de l'architecture, mais très exactement dans l'architecture dans laquelle on se trouve. Et cette description de la tour donne le sentiment qu'effectivement, les vizirs, et là en l'occurrence c'est Ibn al-Jayyab qui a composé ce poème, très, très tarabiscoté, il faut bien le dire, l'a fait parce qu'il connaissait vraiment les plans. On a le sentiment, enfin moi c'est l'intime conviction que j'ai, qu'il a participé probablement à la conception du décor, voire du plan, puisque je peux pas le développer ici, mais il y a un jeu très savant de renvoi d'hémistiches de poèmes d'une paroi à l'autre. Enfin voilà, il y a une sorte de jeu de pistes extraordinaire dans cette tour qui me fait dire qu'il a vraiment composé, je dirais, sur le motif.
Et il y a comme une sorte d'iconographie verbale.
Il y a une iconographie verbale. La poésie est en fait, avec évidemment le décor géométrique de ce qu'on appelle les azulejos, donc c'est l'embris de mosaïque, de céramique magnifique, à décor géométrique avec une géométrie extrêmement sophistiquée, puis les décors de stuc évidemment. Une fusion en fait effectuée par le truchement de la poésie, c'est vrai également par exemple dans les inscriptions, c'est vrai des deux inscriptions poétiques qui sont composées pour les deux coupoles qui sont de part et d'autre du plus long côté de la cour des lions, la coupole des deux sœurs et la coupole des abancérages, où là aussi on a très clairement la description, je dirais, de la structure étoilée, qui est une sorte de métaphore, évidemment, de la voûte céleste. Tout ceci, en fait, est commenté dans les poèmes qui cernent ces deux coupoles, ainsi que les reflets, en fait, de la surface d'eau, puisqu'on a des bassins qui rentre dans ces deux espaces qui lient l'extérieur et l'intérieur. Et on a en fait un jeu de métaphores extrêmement savant, sophistiqué. Donc oui, pour répondre, j'ai déjà répondu trop longuement à votre question, l'art de vivre Nasride n'est pas une légende.
Mais je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, c'est pour ça que je vous ai laissé développer cette réponse. Nous arrivons et nous nous approchons du terme de l'émission. J'ai cru comprendre que, entre autres, ce qui a précipité la chute finale du royaume Nasride avec Boabdil, Mohammed XII, c'est que d'abord son père s'était pris d'une captive, une certaine Soraya, Et donc, il a eu avec elle deux fils. Il voulait désigner un de ses fils comme son successeur. Et la mère Aïcha des Espagnols, ne voulait pas l'entendre ainsi. Et c'était plutôt son fils à elle, donc Mohamed Bouabdil, qui devrait être le successeur de son père. Donc, il y a eu quelques querelles. Et le mot peut-être est un doux euphémisme, mais en tout cas une réelle bagarre entre le père et le fils. Entre-temps, les rois catholiques se sont un peu engouffrés dans cette querelle familiale. Et le coup de butoir, on l'a eu presque tout au long de l'année 1491. Et les clés de la ville ont été remises le 2 janvier 1492.
Oui, ça se termine par cet épisode,
du soupir.
Tragique, ou plutôt dramatique. Voilà, et légendaire là aussi, du soupir du mort. Donc, arriver dans un endroit d'où il peut voir ce qu'il vient de laisser. Cet Éden perdu qui est Grenade, et en particulier l'Alhambra. On n'a pas évoqué ses jardins, mais tant de compositeurs s'y sont aussi intéressés. C'est tellement fondamental, et même si les jardins que nous voyons sont des jardins du 19e, Bouabdil se retourne et voit ce lieu magnifique qu'il laisse dans un lieu où on va maintenant faire pèlerinage, qui s'appelle El Sillón del Moro. Et il se met à pleurer. Et sa mère lui aurait dit « Ne pleure pas comme une femme sur ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. »
Ne pleure pas comme une femme sur un royaume perdu que tu n'as pas su défendre comme un homme. Et ça a été immortalisé par l'œuvre d'un Ihortis. Je ne me rappelle plus de l'appellation avant. Donc une toile que nous voyons comme ça. Bouabdil, avec un air mélancolique et patibulaire, en train de pleurer. Sur cette note dramatique, nous finissons. Merci Sophie Macario de nous avoir enchantés par la description partielle et parcellaire du palais de l'Alhambra, de la ville de Grenade. C'est vraiment par tous que nous avons vu et connu avec vous la ville de Grenade. Je rappelle pour nos amis auditeurs que vous êtes historienne, médiéviste, historienne de l'art, présidente du musée Guimet, créatrice du département des arts de l'islam, le 8e département du Louvre. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours notre amie Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
J'ai tout mon temps d'homme passé, sans lendemain dans les fossés, attendant une aube indécise. La mort à mes côtés assise, enfant roi du palais chassé, la veille où Grenade fut prise. J'ai vécu comme un insensé, dans l'Alhambra des vents glacés, les yeux défunts, la lèvre grise. J'ai d'eau qui murmure et se brise, miroir par avance blessé, la veille où Grenade fut prise. Je suis une nuit des pensées, qui cherche au matin ses pensées, un joueur et qui n'a plus sa mise, déjà déchirant sa chemise, qu'on vise un cœur déjà percé, la veille où Grenade fut prise. La veille où Grenade fut prise.